Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour, bienvenue à la conspiration des planches, une conspiration gorgée de soleil aujourd'hui avec deux animateurs bronzés, Nurten et Nico. Bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Oh, la magie de la radio, c'est formidable.
Alors, on va traverser une conspiration très variée aujourd'hui. On ira d'un institut Benjamita un peu froid, je pense, à la chaleur étouffante de la jungle avec Antilope. On s'intéressera à une auteure québécoise, Carole Fréchette, avec Jean et Béatrice. C'est Élie qui nous en parlera par téléphone. Et on parlera aussi de la nouvelle création du Panache Club, qui a toujours autant de panache, d'ailleurs, avec Nothing, Rien, Nix, Nada. Et puis aussi un texte de Alan Ball, 5 filles couleur pêche au martyr. Voilà, on commence donc avec l'Institut Benjamita à l'Océan Or.
Et oui, et c'est le deuxième spectacle d'un comédien, d'un très bon comédien qu'on voit souvent chez Armel Roussel, qui s'appelle Nicolas Luçon. Donc il nous fait sa deuxième mise en scène et c'était un petit moment attendu. Il avait déjà donné une première mise en scène toujours à l'Océan Or, c'était Blanche-Neige il y a quelques années. Et décidément, ce garçon a beaucoup de talent. Il s'attache, comme avec Blanche-Neige, à un auteur suisse qu'on connaît, qu'on commence à reconnaître en fait, qui revient un peu à l'affiche, c'est Robert Walser. Alors Robert Walser est un auteur suisse à cheval sur le 19e et 20e siècle, et c'est aussi un auteur dont s'est inspiré justement Pascal Crochet ces deux dernières années avec Le Rideau et l'Océan Or pour nous montrer cet univers avec Airway, premier dialogue et deuxième dialogue, dont on avait donné justement le prix du meilleur spectacle l'année dernière. Alors Robert Walser, son univers est assez surprenant pour ce siècle, pour le début du 20e siècle. Il écrit en fait, c'est tout son univers, c'est le petit héros, l'anti-héros, et s'accroche aux toutes petites choses, c'est-à-dire se détacher du monde et de tout ce qui est envie de pouvoir, et de se résumer à quelque chose de très 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 petit, devenir carrément le zéro degré de la nullité, un pied de nez comme ça aux ambitieux, justement son ambition est de devenir un homme très petit. Finalement, au fil de l'univers, je me dis, est-ce que c'est pas une forme de révolution passive qui est bien plus dangereuse. En tout cas, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, mais c'est très ambigu. Il y a cette force justement de l'anti-héros et
c'est,
tout son
univers. C'est à contre-courant dans une époque menée par la globalisation.
Ça marche aussi parce qu'il y a toujours ce courant dans l'art de l'anti-héros. Comment se détacher? Alors c'est très ambigu parce que est-ce qu'il y a une fierté là-dedans ou est-ce qu'il y a vraiment un travail d'humilité, de lâcher le monde tel qu'il est et de dire moi je me contente de peu et je vous emmerde finalement. Et ici dans l'univers de Walser, il y a toujours ce personnage du domestique, du serviteur. C'est aussi, il y a toute cette théorie philosophique du maître et de l'esclave, qui est le maître et qui est l'esclave. Et par des petites scènes comme ça, voir une image idéale ou en tout cas comme un but à atteindre de devenir un petit homme. Et ici, dans l'Institut Benjamita, c'est l'histoire de Jacob qui rentre dans un institut, dans une école qui apprend justement le service et la domesticité. Et lui, il vient d'une bonne famille et il veut absolument se destiner à servir quelqu'un d'autre et donc à se rapetisser au niveau de son ambition. Dans cet institut, ce qui est très sombre, c'est très étrange, il n'y a même pas de professeur et il y a un homme et sa sœur qui tiennent cette maison grise, il faut bien le reconnaître.
Il y a combien de comédiens dans cette pièce?
Il y a 4-5 comédiens, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comédiens. Il y a surtout Benoît Piret qui joue chez Jacob parce qu'il vient dans cette école et il va un peu déranger un peu tout le monde. Lui-même, ce qui est très beau comme personnage, il est pris entre l'envie de justement s'éteindre et d'accepter cette vie et être domestique et l'autre envie évidemment de se révolter et de se prendre la tête, de se cogner sur un monde qui accepte le monde quel qu'il est, qui ne pense même pas qu'il peut se poser des questions. On est dans le degré zéro de la vie. Ces gens passent le temps à quoi? À apprendre par cœur un règlement et il n'y a pas de vie, il n'y a pas de conscience ni de questions. Et ce Jacob va un peu troubler les uns et les autres. Bon, c'est un peu convenu, mais pour l'époque, c'est un roman de 1900. Par exemple, le professeur va à un moment donné se découvrir une ambiguïté un peu, je sais pas, homosexuelle ou quelque chose comme ça. La femme, elle va se suicider parce qu'elle va découvrir que l'amour, elle l'a oublié en cours de route. Donc chacun un peu se dévoile, mais surtout la performance de ce jeune comédien Benoît Piret est extraordinaire parce qu'il joue, il arrive à planter cette ambiguïté, partant tout le temps de vouloir s'écraser dans un travail sur lui-même, de vouloir être un petit homme, qui est son ambition, et l'autre envie d'être pris par la vie et de vouloir cogner à ce monde et une espèce de révolte. La mise en scène de Nicolas Luçon est très, très, très sobre et très sombre. C'est une espèce de plateforme, un haut plateau sur lequel les comédiennes viennent un par un. Très sombre. La lumière est dans le deuxième pan à l'arrière du spectacle. C'est un spectacle qui a l'air comme ça en profondeur. Il y a une espèce de lumière claire-obscure et de la buée, on va dire, et les personnages viennent de là, comme si on était dans l'antre de l'Institut Benjamin Tat. Ils vont et ils viennent comme ça, il y a quelque chose de très feutré qui se passe tout le long du spectacle. Enfin, il a beaucoup de talent et il a réuni une bonne équipe, en plus très différent. Moi, j'étais très étonnée de retrouver Lofty, Yaya, Jedidi dans cette mise en scène, parce que généralement, Luçon, bon, c'est des gens qui travaillent entre les potes, et il y a ce Benoît Piret qui vient du Conservatoire de Liège. Tout est bien fait. Le seul petit bémol, c'est que c'est 1h40, 20 minutes de trop, parce que cette lenteur, on est de moins en moins habitué au théâtre. Il faut vraiment une écoute et se poser. Et on a un peu un coup de pompe, parce que le texte est par petites touches, c'est pas une histoire linéaire. Et parfois, on perd un peu le fil, on rentre, on perd. Donc il faut faire un effort de spectateur, parfois. Mais c'est un univers poétique très, très, très beau, que je vous recommande.
Et donc, ça t'avoue. Un Robert Walser encore à voir, à découvrir.
Jusqu'au 2 avril au Théâtre Océan Nord, à découvrir et à lire aussi Robert Walser.
Voilà, on passe maintenant à un style complètement différent avec le Panache Club, qui nous avait déjà étonné avec À la recherche du sens de la vie perdue, qui donnait déjà une idée de l'absurdité de la chose. Il y a quelques années, ils avaient créé In Bed with the Panache, où tout se passait autour d'un lit sur la scène. La particularité du Panache Club, c'est qu'ils travaillent, c'est un collectif, ils sont 9 ou 10 et ils travaillent vraiment tous ensemble à tous les niveaux, au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène. Voilà, à tous les niveaux. Et cette année, ils reviennent avec Nothing, Rien, Nix, Nada, toujours mis en scène par Eric de Starck. Toujours complètement absurde. Alors, je vous préviens, pour apprécier, il faut être adepte des Marx Brothers, des Monty Python, de Buster Keaton, de ce genre d'humour un peu décalé, assez surréaliste. D'ailleurs, la pièce démarre avec 10 chaises en rang d'oignon sur la scène et rien d'autre. Et toute la pièce, ce sera 9 personnages qui sont dans cette salle d'attente. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Et chacun va essayer de grappiller une petite place et tout ça, ça va partir en vrille. Ça va donner lieu à des duos bizarres, à des mouvements, des chorégraphies improbables.
C'est toujours efficace, une salle d'attente au théâtre.
Oui, ce qui est très drôle, je ne vais pas vous révéler la fin, mais à un moment donné, il passe quand même de l'autre côté. Et là, c'est juste hilarant. C'est inracontable parce que c'est tout des petites choses comme ça. Tout à coup, c'est un rêve halluciné où il y a des lapins qui vont apparaître. Il y en a une qui se lance soudain dans un orgasme spectaculaire. Voilà, ce sont toutes des choses sketchs surprenantes. Ce sont des sketchs et c'est entièrement muet. Donc, il n'y a aucune parole d'un bout à l'autre. Et pourtant, on ne s'ennuie pas une seconde alors qu'on est quand même dans une salle d'attente. Ce qui est, je trouve, un exploit. Voilà, ça dure.
Il faut être accroché par la mise en scène. Alors, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de texte, est-ce que ça tient?
Eh bien, c'est
vraiment
là où ils sont très forts. C'est qu'ils nous prennent tellement par surprise. Comme tu dis, le rythme est très, très bon. Le rythme ne se relâche jamais. Voilà, c'est juste
très drôle.
Est-ce qu'on
est dans le clown à un moment donné?
Oui, complètement. Dans les cascades, dans les chorégraphies, les mouvements d'ensemble. Et puis, ça raconte des choses aussi. Une histoire d'amour, tout à coup, où il y en a deux qui se mettent à roucouler comme des pigeons. Et c'est absurde, surréaliste, et moi j'adore, donc je suis une fan et je vous le recommande. C'est encore à voir jusqu'au 2 avril à l'atelier 210.
Et puis c'est rare, hein, des spectacles sans parole, on en a de temps en temps, mais c'est pas...
Oui, il y a quelque chose qui le rend très dynamique du coup, parce qu'il faut compenser ça. Voilà, je vous le recommande jusqu'au 2 avril à l'atelier 210. J'ai même un numéro de téléphone, le 02 732 25 98, 02 732 25 98. Nico, toi, tu nous emmènes dans la jungle ?
Venez avec moi.
Fais-moi ta voilà.
Oui, ouf, voilà. En tout cas, c'est dans la jungle africaine, mais c'est un auteur du nord scandinave qui nous emmène. Henning Mankell, qui délaisse ici son enquêteur fétiche Wallander pour un autre de ses personnages fétiches, l'Afrique. Oui, en effet, Henning Mankell s'est toujours intéressé pour l'Afrique et notamment le Mozambique où il est allé à plusieurs reprises, l'Angola aussi. Enfin bref, il a beaucoup bourlingué et il nous amène à une critique du monde humanitaire occidental, c'est-à-dire toutes ces personnes qui partent en mission humanitaire pour développer, en l'occurrence ici, des puits, des fontaines dans des villages reculés de l'Afrique. On ne sait d'ailleurs pas quel pays, dans quel pays nous sommes. Et on entre tout de suite dans l'intérieur d'un couple de ces humanitaires qui sont sur le départ, qui vont revenir en Suède, et ils attendent leur successeur en bouclant leur dernière valise avant de passer la dernière soirée donc dans leur bungalow chic de cette banlieue africaine. Des expats, en effet. Et c'est le moment de faire le bilan sur le bilan humanitaire, évidemment, sur les actions qui ont été menées pendant plus de 10 ans par ce couple, et aussi le bilan pour le couple de faire son propre bilan dans leur intimité. Alors on sent directement qu'il y a une grosse tension entre les deux et que l'homme et la femme ne se comprennent plus, ne se parlent plus. L'un pose des questions, l'autre répond à quelque chose de tout à fait différent. Et notamment, on sent que le couple ne s'entend plus sur ce qu'est le couple et sur ce qu'est l'objectif humanitaire qui était poursuivi. On comprend aussi très vite qu'il y a beaucoup de déceptions au niveau de l'idéal humanitaire qui a motivé le couple au début de cette mission. Il devait faire, je crois, creuser 500 puits et les aménager avec des pompes, et il y en a 3 qui fonctionnent finalement au bout de 14 ans. C'est un peu pathétique. Oui, au bout de 14 ans, bien que les 500 soient creusés. Mais enfin, bref, c'est ça. Alors, cette tension est une tension tout à fait féline et qui est donnée et qui est rendue possible grâce à une mise en scène de Christophe Sermet, donc qui crée ce spectacle au Rideau de Bruxelles. Petite parenthèse, c'est le dernier spectacle du Rideau dans les murs du Palais des Beaux-Arts. Et tout à fait féline, de par les déplacements des personnages et aussi parfois leur attitude complètement, je vais dire, burlesque, genre ils se frottent pour se gratter par terre de temps en temps, surtout l'homme du couple interprété par Bernard Sens sur la scène du Rideau. Et féline aussi dans leur approche l'un et l'autre, parce que les antilopes, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est peut-être ces idéaux qui étaient dans leur esprit et qu'ils essayent de chasser finalement, puisqu'on se rend compte que derrière le papier glacé de la brochure de l'organisation, eh bien finalement on creuse, et c'est aussi une critique d'Henning Mankell sur ces ONG qui ont pris tellement d'importance qu'elles en arrivent à fonctionner comme des entreprises. D'ailleurs, on remarque par rapport à leur personnel de maison, ils ont des attitudes on ne peut plus colonialistes et on se rend compte qu'en fait cette attitude est contrebalancée et peut-être même motivée par une volonté de ne pas s'apitoyer sur le sort et de les motiver. Et alors on est vraiment entre les deux, et ce texte joue vraiment bien là-dessus, sur ce décor africain, dans une chaleur, même dans l'auditoire Paul Williams, il faisait une chaleur, c'était incroyable. Mais cette atmosphère est vraiment bien rendue. Alors, autre partenaire du couple, Muriel Jacobs, donc qui fait l'épouse de cet humanitaire, qui elle n'a qu'une seule envie, partir et retourner au pays, parce qu'elle se rend compte que tout ce qui a été mené là est vain. Et voilà. Et arrive donc en deuxième partie Grégoire Fassbender, qui interprète Martin Lundin, le fameux successeur fraîchement divorcé. Lui, animé plein d'idéal, évidemment, du moins on le pense, et qui vraiment arrive à critiquer l'attitude de ses prédécesseurs sur cette mission.
La voix des locaux ne sont pas là. La voix des Africains.
Non, parce que donc ils sont 3 sur scène, et quand ils parlent de leur gardien de nuit qui dort la nuit et qui fait des enfants le jour, comme ils disent, oui, c'est très choquant quand ils disent ça. Hein. C'est vraiment ce discours-là qui s'appelle Eisenhower, qui est parfois remplacé par Staline. Ça, c'est une petite blague du truc. Et puis il y a Edith, leur bonne, un peu comme ça, hein, qui fait la cuisine, le ménage, etc., etc. Ils ne sont là que par absence. Alors, c'est très bien au niveau du texte, comme je le disais. Par contre, au niveau de l'interprétation, on reprochera quand même parfois quelques moments hystériques qui blessent le texte, justement, et le rendent parfois incompréhensible. Il n'est pas nécessaire de crier, je crois, pour transmettre une tension entre un couple.
Mmh. Moi, tu m'as convaincu tout de même. Ça a l'air très chouette.
Mais c'est intéressant, surtout sur ce discours humanitaire et c'est des enchantements.
L'ambiguïté des expatriés et du travail des ONG.
C'est à voir donc jusqu'au 9 avril à la rue Ravenstein au Beaux-Arts, donc dans le Rideau de Bruxelles. Et c'est au 02 507 83 61 que vous pourrez réserver vos places ou sur www.rideaudebruxelles.be.
Et on va s'évader encore un peu avec une pause musicale.
La conspiration.
Both Ways, Open Jaws, c'est une nouveauté et c'est issu de l'album du même nom de Do qui viennent de sortir donc leur nouvel album, ce duo franco-finlandais. Ça, c'est de l'autre exotisme, hein, Catherine.
Oui, et d'ailleurs, on va maintenant aller du côté du Québec avec Jean et Béatrice.
Oui, Elisabeth nous en a rapporté quelques impressions qu'on écoute tout de suite. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors, tu es allé voir pour nous Jean et Béatrice au Riche-Clair.
Oui, voilà, au Riche-Clair. Alors, c'est un super petit spectacle comme ça qui mérite vraiment d'être vu. C'est une pièce de Carole Fréchette qui est en fait l'auteur québécoise qu'on connaît bien parce que c'est vraiment une auteure phare de la production québécoise. Elle écrit depuis, je pense, les années 90. On a déjà eu quelques productions ici à Bruxelles. Et c'est un auteur qui a un univers un petit peu particulier, je dirais, avec une certaine naïveté intelligente, on pourrait dire quelque chose comme ça. Il y a aussi beaucoup de fraîcheur qui se dégage de là. Et ce qu'elle nous propose, c'est une situation banale qu'on connaît bien de nos jours, puisque c'est l'histoire qui place en quelque sorte une petite annonce parce qu'elle cherche un homme qui peut l'intéresser, l'émouvoir et plus s'y affiniter. Mais de cette situation qu'on connaît bien, elle tire quelque chose de tout à fait original. Parce qu'en fait, Béatrice, qui est aussi une riche héritière, eh bien, elle a décidé de tester les candidats. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Jean, qui lui est chasseur de primes et qui est particulièrement intéressé par la récompense substantielle qui est à la clé. Ce qui permet évidemment au récit de prendre tout à fait une autre tournure et à des tests des gaz, c'est de raconter une histoire à laquelle Béatrice est suspendue aux lèvres de Jean.
Et donc c'est une histoire, on va dire, où on aurait pu tomber dans les clichés hein, de la rencontre interposée, mais on nous offre ici vraiment quelque chose d'original et de nouveau.
Oui, voilà, et quelque chose qui va finalement vers une réflexion, ben, qu'est-ce que c'est aimer, à partir de quel moment on a bien pris à l'hameçon, mais c'est amené avec beaucoup de douceur, beaucoup de questionnements, beaucoup d'intelligence et beaucoup de choses inattendues et généralement souriantes aussi, même si on sent qu'il y a en fond d'une gravité, parce que ben, une rencontre, c'est pas banal, se trouver, c'est pas banal, s'entendre, c'est pas banal, voilà. Et donc on est bien loin de ce qu'on pourrait attendre d'une situation pareille.
Il fallait un duo d'acteurs pour incarner ces deux personnages. Est-ce que le contrat est rempli?
Oui, absolument, parce qu'en fait, les deux personnages, donc Jean et Béatrice, sont incarnés par Myriam Akédiou et Nicolas Ossowski. Enfin, je pense que j'ai un petit peu massacré leur nom, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont tous les deux vraiment tout à fait présents. On sent qu'ils aiment ce texte, qu'ils ont envie de le défendre, et qu'ils sont aussi complices, ils ont déjà joué ensemble. Mmh. Et tout ça est mis en scène par Catherine Mignoum, et qui a bien compris comment elle pouvait exploiter la légèreté et la gravité sous-jacente de ce texte.
Est-ce que la langue québécoise se ressent?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose auquel je n'ai même pas pensé. En fait, c'est juste que, ben, voilà, Carole Fréchette, elle est québécoise, mais il y a peut-être deux, trois utilisations de termes un peu anglais, mais bon, voilà, c'est tout à fait anecdotique dans l'histoire. C'est pas du tout en parler. On est des choses comme ça, non.
Pas de tabernacle.
Pas de tabernacle, non.
Un spectacle rafraîchissant, donc, à voir au Riche-Clair. C'était donc Elisabeth qui nous parlait donc de Jean et Béatrice, un spectacle à voir jusqu'au 2 avril au Centre culturel des Riche-Clair en plein centre-ville.
Tout à fait. Et pas très loin non plus, au Théâtre des Martyrs, il faut absolument aller voir 5 filles couleur pêche de Alan Ball. Alors,
absolument.
Absolument, oui, je trouve. Surtout si on est une fille d'ailleurs. Si on est un garçon, il faut s'attendre à se prendre quelques coups.
Moi, j'ai du mal avec le titre.
Mais ça fait tout son sens en fait quand on voit la pièce. Mais surtout, il faut d'abord présenter Alan Ball, c'est le scénariste de American Beauty qui avait récolté quand même pas mal de prix. Et aussi de Six Feet Under, donc
l'excellent Six Feet Under.
À l'écran, à la télé, voilà. Et on retrouve le même style et surtout le même contenu et la même plume très critique du rêve américain, de la société américaine, ici tiraillée entre... le puritanisme, incarné, on le sait, par Sarah Palin et par tous les mouvements évangélistes qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et de l'autre côté, la décadence, presque la pornographie d'une jeunesse qui se sent étouffée par ce conformisme et qui a envie de briser les carcans. Voilà, alors on débarque avec cette pièce dans la chambre d'une fille qui se marie ce jour-là. Et cette fille a 5 demoiselles d'honneur qui sont toutes habillées en couleur pêche. Seulement, dans la mise en scène de Christine Delmotte, la couleur pêche est devenue plutôt orange sanguine et on comprend que ça va être un peu saignant. D'autant que les premières notes de cette pièce, c'est une marche nuptiale un petit peu désaccordée. Voilà, donc on se dit on va un petit peu aller gratter derrière ce rêve américain. Il faut dire que ces 5 filles sont assez stéréotypées, ça c'est peut-être le bémol de cette pièce. Il y a la lesbienne de service, il y a l'adolescente rebelle, il y a évidemment la super chrétienne qui veut absolument se préserver et rester vierge jusqu'au mariage. Il y a une dévoreuse d'hommes, femme ultra libérée. Et puis enfin, il y a une femme qui, elle, s'est déjà mariée, mais un peu par dépit et qui est évidemment... très désabusée et qui rêve encore à son amour de jeunesse, qui justement est là au mariage ce jour-là. Et elles vont se rendre compte que cet homme a finalement couché avec les 5 filles et qu'il est un beau salaud. Voilà. Alors, on imagine qu'elle voit cette réception se dérouler sur le gazon en bas là de cette chambre, et entre le champagne qui coule à flot et les joints qu'on se fume sur le lit, les conversations vont se délier et on va parler, mais alors vraiment de tout et de rien, de la liposuction, de Malcolm X parce qu'il y a un poster dans la chambre, parce qu'on est dans une famille, évidemment, on imagine hyper républicaine, blanche, riche, privilégiée, dont la fille adolescente essaie de se rebeller avec un poster de Malcolm X dans sa chambre. Mmh. Mais bon.
Ça a l'air de filer sur une tonne de clichés, mais ça fonctionne ?
Oui, parce qu'il y a une légèreté, une frivolité qui fonctionne très bien. Parfois, on a l'impression, honnêtement, d'être devant un film, une comédie romantique à la Julia Roberts, ce qui n'est pas pour me déplaire, moi j'aime assez. Mais d'un autre côté, ça s'est contrebalancé parfois par des pics et surtout des répliques super bien senties, assez drôles, vraiment acerbes. Et là, on reconnaît la touche d'Alan Ball.
Je crois que c'est... Oui, justement, parce que déjà, si on a déjà eu l'occasion de voir son film American Beauty ou Six Feet Under, c'est cette manière d'amener des choses hyper graves et intéressantes avec des discussions qui sont un peu du quotidien comme ça. Et finalement, c'est seulement à la fin, on se rend compte, ah oui, on a abordé tout ça et on a dit tout ça, alors que finalement, au fur et à mesure, on dit bah oui, il se passe ceci, cela, mais c'est assez minime quoi.
Oui, et la mise en scène de Christine Delmotte ici rajoute encore un autre niveau de décalage, parce que chaque fille à un moment de la pièce va faire une pause chorégraphiée comme ça, où c'est complètement en aparté et en opposition à sa personnalité. Donc par exemple, la vierge puritaine va se mettre à chanter Like a Virgin de Madonna devant sa glace, et ça rajoute un petit côté rock'n'roll, mais surtout décalé, bizarre, qui décale un peu la chose.
Bon, Catherine, spectacle pour filles ou pour garçons ?
Spectacle complètement pour filles, ça c'est clair. mais surtout spectacle pour passer un beau moment et pas vraiment se prendre la tête, même si, comme je l'ai dit, il y a une petite note critique de l'Amérique.
Avec une distribution aussi assez variée, hein ?
Oui, avec deux chanteuses d'ailleurs, Stéphanie
Blanchou.
Blanchou, Karine Clerc. Il y a Laura Vossen qui est absolument formidable. Et il y a Valérie Beauchau qui joue un personnage beaucoup plus jeune que j'imagine son âge réel. Mais ça fonctionne.
C'est la mariée, c'est la divorcée.
C'est la femme ultra libérée.
Mmh.
Voilà, non, vraiment, il faut y aller pour passer un bon moment. Ça dure jusqu'au 9 avril au Théâtre de la Place des Martyrs et le numéro de téléphone, c'est le 02-223-3208, 02-223-3208. Et on va parler d'un petit festival au national.
Oui, Catherine, alors que ça commence jeudi jusqu'au samedi et c'est le festival première édition XS comme extra small. Le procédé est simple, c'est faire des spectacles, des courtes formes, comme on appelle ça, de 5 à 25 minutes. Alors je le recommande très fort parce que ça commence de 19h à 23h, c'est à peine 10 € et il y a une trentaine de petites formes. Ce qui impressionne vraiment, c'est le rassemblement de tant de talents d'artistes belges, de la scène belge qui est là. Donc c'est ce rassemblement qui est assez surprenant. Il y aura Françoise Bloch qui fait un travail sur le théâtre documentaire sur la société de service. Il y a le chorégraphe Thierry Smith qui vient montrer une petite partie de Sacrifice. Il y a Hélène Perrolin, la chorégraphe, la jeune chorégraphe d'origine d'Argentine, qui vient faire un spectacle. Il y a un Irakien, Mokala Drassem, qui est connu à Anvers, qui vient faire aussi un spectacle. Il y a Union Suspecte. Enfin, il y a une panoplie de personnes qui font des choses très variées dans des endroits très différents. Évidemment, c'est le but. Hein,
avec des choses qui peuvent durer à peine 5 minutes. Hein,
Il y a des collectifs qui font 5 minutes. Il y a le cirque, il y a la danse, il y a le théâtre. Et c'est vraiment... Enfin, il y a énorme. Toutes les signatures sont à prendre. C'est vraiment des gens qui ont du talent et qui sont installés en Belgique. Et puis, évidemment, avec le festival, il y a un côté DJ et lounge après soirée, hein, des afters. Et voilà. Donc, c'est une bonne idée pour plonger un peu dans plein d'univers et plein de talents belges au Théâtre National. Première édition, extra small. Et puis, c'est très fun. Hein, parce qu'il faut dire énormément de choses, avoir un propos cohérent en 5 ou 20 minutes.
Et puis, on peut se faire tout le programme sur 3 jours. C'est ça qui est
on
bien.
Peut se
il y a
le faire,
des heures différentes.
Ouais. Je crois que le jeudi, vraiment, c'est le jeudi où il y a moyen de caser un peu tous les spectacles. Donc voilà, c'est du 24 au 26 mars au Théâtre National. Première édition, Festival XS.
Et peut-être un petit mot de danse à voir cette semaine.
Ouh, danse, il y a deux belles choses. Il y a au Hall de Scarbec une chorégraphe d'origine maghrébine, une chorégraphe française qui s'appelle Nassera Belhaza et qui vient présenter Le Temps Scellé. Alors Nassera Belhaza, c'est une chorégraphe qui joue tout le temps avec sa sœur, qui danse tout le temps avec sa sœur. Elles ont toujours le même habillement, qui est un peu une espèce de jogging, un jogging un peu sur scène, comme ça, très sombre. Et alors, c'est simple, c'est le genre de bonnes femmes qui vont faire à peine, en une heure, ils vont avancer d'à peine 1 mètre ou de 2 mètres. Donc, c'est très hypnotique, il y a un peu de soufi, mais c'est ultra contemporain. Elle prend toujours, elle a des mêmes procédés, c'est vraiment un discours sur la danse. Elle prend un extrait de Nina Simone qu'elle va remixer tout le long du spectacle. Et elle avance vraiment au millimètre près et c'est très hypnotique. C'est vraiment une curieuse expérience à vivre et c'est de la danse ultra contemporaine, quasi abstraite. C'est Le Temps Scellé de Nassera Belhaza au Hall de Scarbec le 25 et le 26.
Merci.
Et de spectacles de danse aux Brigitines, Claudio Stellato et Villa Lobos sur l'homme et ses emballages, soirée composée jusqu'à samedi. Au Brigitte.
Eh bien, que de choses à voir, on va pas s'ennuyer cette semaine. Allez, foncez aux planches, foncez sur les planches pour voir de la danse et du théâtre. Amusez-vous bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et la conspiration des planches, c'est à écouter en rediffusion le jeudi à 13h30 sur Radio Campus et en podcast également sur demandezleprogramme.be.
Constelación.